à tous, la Grande Table fait la part belle aux artistes tout l'été. À 13h50, l'écrivain François Sureau sera devant le lion de la place d'Enfer Rochereau pour retracer l'itinéraire d'un éléphant, Babar. Mais avant cela, nous allons parler des tubes de l'été. Aline Maldom, La Isla Bonita, il teinte encore à nos oreilles ces morceaux qui se sont fait la mémoire d'une saison. Quelques notes suffisent à faire jaillir les souvenirs ondoyants, à moins que les pulsations ne rappellent les orages, le métal et le bruit. Mai 68, la grève générale accompagnée par la cavalerie de Julien Clerc. Musique lancinante, mère des réminiscences, des jouissances ou des luttes, moments d'osmose, de sympathie, entre air chanté et air du temps. Voilà 101 tubes de l'été réunis dans un ouvrage aux éditions de L'Ailleurs, dont nous allons parler aujourd'hui en compagnie de l'un de ses auteurs, Alain Pozzuoli, de Bertrand Dical, auteur de la chronique « Ces chansons qui font l'été » sur France Info, et d'Aloïse Sauvage pour son album « Dévorante ». Bienvenue à tous sur France Culture.
La grande table d'été, Maëlys Besserie.
Bonjour à tous les trois.
Bonjour. Bonjour.
Alors d'abord, une petite question de définition s'impose. Alain Pozzuoli, comment est-ce qu'on définit un tube de l'été? Il y a des critères notamment de durabilité. Hein.
Ah,
ça
oui,
commence
absolument.
Au printemps, un tube de l'été en réalité.
En général, ça démarre début juin. Mais il y a des tubes qui démarrent plus tôt et qui couvrent toute la période d'été, qui courent parfois jusqu'au mois d'octobre. Mais au départ, un tube de l'été, c'est prévu vraiment pour une période très réduite de 3-4 mois.
Mais alors se pose la question du temps pour que la musique soit assimilée, qu'elle prenne d'une certaine manière, qu'elle soit diffusée. Et puis vient le temps où la musique va être à nouveau achetée pour se rappeler, se remémorer cet été-là, Bertrand Dical.
Bah oui, parce qu'un tube de l'été, moi je dis souvent qu'un tube de l'été, ça doit d'abord être un tube de l'automne. C'est-à-dire que pour que ça rentre dans la mémoire, dans les livres, dans les compilations, faut qu'on s'en soit souvenu. Parce qu'on connaît tous ce phénomène et on va dans un pays étranger, on entend un tube tout le temps, on achète jadis la cassette, aujourd'hui on le met dans son téléphone. Quand on revient chez soi, quand on est en automne, ça marche plus du tout. Et un tube de l'été, il faut qu'il ait quand même une durabilité. Pas sur le moment. Mais pour qu'on s'en souvienne, pour qu'il rentre dans la vraie légende des tubes de l'été, faut qu'en automne on s'en souvienne, qu'on l'achète. Comme on l'a acheté, on le réécoute au temps du disque physique. Et c'est comme ça qu'il s'inscrit dans la mémoire. C'est-à-dire qu'il doit transporter avec lui le souvenir de l'été, le transporter en toutes les saisons.
Ah, c'est justement ce qu'on a fait dans le livre. On a voulu choisir des tubes qui étaient plus que des tubes finalement, qui sont devenus des standards. Parce qu'un vrai tube, c'est quelque chose qui dure des décennies.
Alors voilà, c'est ça. Là, se repose encore la question sémantique. D'ailleurs, vous donnez l'histoire de cette histoire du mot tube qui viendrait de Boris Vian. On avait parlé avant de saucisson. Vous connaissez cette
Oui, il avait même parlé de scie aussi, de scie musicale. Mais en fait,
on disait une scie jadis. Puis on a commencé à dire un saucisson pendant les périodes de pénurie. Et c'est vraiment sous l'occupation qu'on a commencé vraiment à dire un saucisson, parce qu'un saucisson, on en coupe un peu chaque jour, on en a à manger pendant des semaines.
Alors, nourriture
cette
musicale.
Idée. Et le tube, c'est comme un saucisson, mais creux.
Et voilà, c'est l'idée de Boris Vian, c'est qu'un tube, c'est une chanson a priori de mauvaise qualité, faut pas oublier que c'était un jazzman, donc la chanson facile, entre guillemets, c'était pas vraiment son truc. Et donc, l'idée péjorative, c'est qu'effectivement, il n'y a rien dedans. Mais c'est pas toujours vrai.
Alors, c'est pas toujours vrai. Il y a eu quand même une histoire des tubes. En tout cas, vous retracez une sorte d'historiographie des tubes. Et on se pose la question de l'aspect français de la chose. Vous dites le premier tube, le premier grand tube, c'est Aline.
Ah non, c'est pas Aline. Le premier grand tube, c'est J'entends siffler le train.
J'entends siffler le train.
De Richard Anthony. Et je pense que c'est à partir de là que l'idée du tube, enfin le concept de tube de l'été est parti. Parce que c'était la première fois qu'une chanson marquait autant les gens. Et elle avait aussi il y avait un arrière-fond aussi avec cette chanson, parce qu'elle est sortie en 62. Donc c'était la fin de la guerre d'Algérie. Et je pense qu'inconsciemment, dans l'esprit des gens, cette histoire de personne qui s'en va, qui prend le train, qui va peut-être pas revenir, ça fait écho à tout ce que les gens ont vécu pendant les années de la guerre d'Algérie, où il y a, dans chaque famille, quelqu'un partait pour faire la guerre. Et je pense que ça, c'est un élément important.
Alors, est-ce que l'aspect, finalement, historique à l'international est le même, Bertrand Dical? Est-ce qu'on dirait qu'il y a eu des tubes américains bien avant? Il y a eu, par exemple, des grands standards du jazz qui ont vécu en leur temps et qui pouvaient être estimés comme des sortes de tubes.
Alors la saisonnalité, alors des tubes, il y en a toujours eu, même avant même la reproduction mécanique et avant même la radio. Il y avait des chansons qui démarraient au Cafcons, pour la France, qui démarraient dans des bouis-bouis dans n'importe quel pays et qui se répandaient de scène en scène et puis par les gens à une vitesse folle. Donc il y avait cette brutalité, cette espèce de violence commerciale. Mais la saisonnalité culturelle, c'est vraiment une caractéristique française. Parce que le tube de l'été, c'est très français, mais la rentrée littéraire, c'est très français. Il y a des très grands livres qui sortent en Allemagne, en Italie ou aux États-Unis en plein mois d'août, des grands films qui sortent en plein mois d'août, alors qu'en France, ça ne se fait pas du tout, sauf cette année. Et là où Alain a complètement raison sur le début du tube dans ces années yéyé, j'entends siffler le train, Aline, etc., c'est que à ce moment-là, il y a quelque chose qui change. C'est pour les radios et pour les professionnels de la musique, on invente la saisonnalité. On se dit, tiens, on va faire des produits pour l'été.
Alors, on pense, pour tout dit, produit pour l'été, Bertrand Dical, on pense pour danser. Et ça n'est pas forcément une des caractéristiques d'un tube de l'été. Il y a les tubes de l'été dansants, mais il y a aussi des chansons plus lentes, des chansons posées. Alors, il y a eu l'idée du slow, mais pas uniquement.
Slow, bien sûr, le slow, c'est la caractéristique principale du tube de l'été. Et c'est pourquoi, je pense aussi, on a de moins en moins de tubes de l'été, parce qu'il n'y a pratiquement plus de slow. Alors évidemment, il y a des tubes de l'été qui n'en sont pas, mais c'était une des composantes essentielles des tubes de l'été, à l'âge d'or du tube de l'été, c'était les années 60-70.
Héloïse Sauvage, vous avez choisi de faire une reprise d'un tube Voyage Voyage de Désirless. Pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix-là? Alors là, on ne peut pas parler d'une chanson vraiment pour danser non plus.
Ouais, là peut-être, ou alors assez calmement. Mais non, moi j'aime bien reprendre... des vieilles chansons, on va dire, où les paroles me touchent vraiment ouais, au niveau de l'écriture. Et je trouve que les reprises permettent ça, permettent d'avoir un nouveau regard sur l'écriture. Souvent, quand en plus, mélodiquement ou musicalement, c'était assez, comment dire, très dans la veine de ce qui se faisait à l'époque.
C'est assez typé.
Oui, voilà, voilà, assez typé, on va dire. Et voilà, tout simplement, j'aime beaucoup cette chanson.
Alors ça fait partie des caractéristiques aussi, la manière dont la chanson s'est écrite. Alors une chanson avec une forme de gimmick comme ça qui revient, qui va être peut-être un des marqueurs du tube de l'été, le titre qu'on va identifier immédiatement,
oui,
mémoriser.
C'est important d'avoir un petit truc qui reste dans l'oreille, même si c'est anodin. Ça peut être un petit bruit, ça peut être un bruit de vague, ça peut être différentes choses, mais qui caractérise la chanson. Je reviens à Voyage, il y a une petite anecdote, je crois que tu vas la confirmer, c'est que Voyage avait été proposé à Michel Delpech et il l'avait refusé parce qu'il trouvait que c'était pas sa tonalité. Je pense qu'il l'a beaucoup regretté.
Ouais. Bertrand Dical, sur cette histoire de voyage, mais aussi la question dont on écrit un tube de l'été, il y a cette idée de quelque chose qui accroche tout de suite l'oreille et qui va prendre les couleurs de la période.
Oui, avec tout le monde dans le métier qui a la mémoire des contre-exemples. 1963, Tombe la neige.
Qui est un tube de l'été, paradoxalement.
De neige, qui parle de l'hiver, qui parle d'un drame amoureux, qui est pas si facile à danser que ça, même en slow. Et ça devient un immense tube de l'été. 78, Un accident de Michel Sardou, qui est une chanson atroce, qui raconte un accident de voiture, vu du point de vue du type qui est en train d'agoniser dans sa carcasse de voiture avec les sirènes tout autour de lui. C'est la première vente la semaine du 15 août en France. Donc le tube de l'été, c'est à la fois quelque chose de complètement évident, mais le public aime aussi les choses qui grattent un peu, qui font un petit pas de côté. Et on a cette idée que le public aime les recettes commerciales super simples et super évidentes.
Ou le sujet léger.
Mais le public adore aussi dire « je ne me laisse pas prendre à ces chansons faciles, je préfère ça ». C'est ça qui fait que le tube de l'été, c'est un sport de combat, mais totalement imprévisible.
Héloïse Sauvage, quand est-ce que vous avez découvert cette chanson « Voyage », c'est pas tout à fait une chanson générationnelle pour vous. Donc comment est-ce que vous l'avez découverte?
Alors, il faut savoir que ma petite sœur écoute toutes les musiques des années 60 à 90. Elle a dû vivre dans cette époque, dans d'autres vies. Enfin, non, ces époques. Et du coup, je crois que ça vient d'elle, plus que moi, qui écoute plutôt ce qui se fait de manière assez contemporaine. Donc je pense que c'est dû à ma petite sœur Clémence.
Alors il y a cette idée du voyage finalement temporel, hein, l'idée que réécouter des morceaux, des tubes de l'été permet de recréer ces moments-là. On vous écoute, Aloïse Sauvage, dans cette reprise de Voyage, Voyage.
Au-dessus des vieux volcans, glisse des ailes sous le tapis du vent. Voyage, voyage, éternellement, de nuages en marécage, de vent d'Espagne en pluie d'Équateur. Voyage, voyage, vole dans les hauteurs, au-dessus des capitales. Des idées fatales, regarde l'océan. Voyage, voyage,
voyage, voyage,
plus loin que la nuit et le jour. Voyage, voyage,
voyage, voyage,
dans l'espace inouï de l'amour. Voyage, voyage,
voyage,
sur l'eau sacrée d'un fleuve indien. Voyage, voyage, et jamais ne reviens. Et ce voyage m'aveugle, tout en virage je tangue. Suis-je définitivement la seule à dévaler les pentes arides en tongs? Est-ce possible, en pleine cible, sur le Gange ou l'Amazone? Dans le noir, la lumière, chez les fauves. Voyage, voyage, dans tout le royaume, sur les dunes du Sahara, des îles Fidji au Fujiyama. Voyage, voyage, ne t'arrête pas, au-dessus des barbelés, des cœurs bombardés. Regarde l'océan. Voyage, voyage,
voyage, voyage, voyage,
plus loin que la nuit et le jour. Voyage, voyage,
voyage, voyage, voyage,
dans l'espace inouï de l'amour. Voyage, voyage,
voyage, voyage,
sur l'eau sacrée d'un fleuve indien. Voyage, voyage,
voyage, voyage,
et jamais ne reviens. Jamais ne reviens, j'ai tout passé en revue. Seulement fierté à ravaler quand sous mes pieds le sol n'est plus. Poumon humide, à tâtons dans le vide. Les vagues tapent contre ma poitrine. Je reste très vague grâce à d'appétit sans soupir. Le soleil face à moi joue l'insolent. Jaloux sûrement de ce coup de foudre au goût salé. Alors voyage, voyage loin, explorer les visages autour de toi. Voyage, voyage bien, voir leur peau éclore de leur bonheur passager. Voyage, voyage loin,
vogue ta langue.
Voyage, voyage bien,
goûte la mer.
Voyage, voyage,
voyage,
plus loin que la nuit et le jour. Voyage,
voyage,
dans l'espace inouï de l'amour. Voyage, voyage, d'un fleuve indien. Voyage,
voyage,
et jamais ne reviens. Voyage,
voyage,
plus loin que la nuit et le jour. Voyage,
voyage,
dans l'espace inouï de l'amour. Voyage,
voyage,
sur l'eau sacrée d'un fleuve indien. Voyage,
voyage,
et jamais ne reviens.
Merci. Merci Eloïse Sauvage, merci beaucoup pour cette reprise. Alors on voit que dans la reprise Alain Pozzoli, il y a aussi l'idée de survivre aussi. Le tube de l'été, il survit malgré tout, même s'il est marqué d'une certaine temporalité qu'il a figée. Il va y avoir comme ça l'idée justement d'un voyage, alors à la fois au-delà des frontières, hein, un voyage parfois international, et puis l'idée aussi d'un voyage dans le temps. C'est un titre qui va vivre, qui va être repris.
Absolument, oui, c'est un voyage dans le temps dans les deux sens d'ailleurs. Et c'est vrai que c'est l'une des caractéristiques d'un vrai tube, c'est justement d'être repris à l'infini par une multitude d'interprètes. Et c'est comme ça qu'on se rend compte de la pérennité d'une chanson. Oui.
Alice Sauvage, vous avez rajouté une dimension un peu rap, il y a aussi des sons électro. Comment est-ce que vous avez justement envisagé ce travail de réappropriation de l'œuvre en tant que telle, du tube?
Oui, j'avais envie, évidemment, d'amener mes sonorités à moi, qui se situent plus, évidemment, et dans le hip-hop et l'électro et la pop même, et puis de garder en fait l'essence de l'émotion que j'avais ressentie à l'écoute, alors que le son est beaucoup plus bon, dansant, on va dire, dans la version originale quand même. Donc j'ai eu envie de le ralentir et d'être plus dans quelque chose de plus ancré, de plus... pas profond, parce que ça peut être péjoratif sur la version originale, c'est pas ça que je veux dire, mais plus boum boum, quoi. Voilà.
Alors, il y a aussi l'idée d'empilement, comme ça, des générations qui viennent revisiter des titres. Il y a cette idée de métissage musical qui est intrinsèque au tube de l'été, parce que les tubes de l'été, finalement, ils ont existé à travers tous les genres musicaux. Il y a eu la période rap, il y a eu la période disco, il y a eu la période rock, et il y a toujours eu un tube qui émergeait de ce genre-là, Bertrand Dical.
Oui, alors la France a une particularité. Alors il y a ça dans un peu tous les pays, même en Russie, même en Allemagne, qui est un gros producteur de chansons exotiques. La France a une grande particularité qui est son ouverture musicale, qui est absolument incroyable, tout simplement par le fait qu'il n'y a pas de genre musical spécifiquement français. La valse, ben non, ça vient d'Europe de l'Est. La polka, ben non, ça vient d'Europe de l'Est.
Un peu d'accordéon aussi, mais pas que.
Oui, mais l'accordéon, c'est des Italiens qui l'ont importé à Paris et qu'ont inventé le musette. Ça a été inventé par des Italiens et des Auvergnats. Bon, certes, les Auvergnats sont français, mais la France a une extraordinaire perméabilité musicale.
Il y a une souplesse dans la réception.
Et en plus, une passion. C'est-à-dire que les Français, depuis toujours, un des premiers tubes discographiques de musique du monde en France, c'est la Matchiche, enregistrée en 1902 ou 1903 par Mayol, qui est une musique brésilienne. Donc, les Français ont le goût de ça. Alors, ça marche aussi en hiver, mais ça marche plus spécifiquement en été, parce que en été, il y a une volonté de débrailler. On est sur la plage, on est en tongs, on est en maillot. Il y a cette idée-là, il y a cette idée du soleil. Parce que il y a une dimension très importante dans le tube, c'est que oui, c'est la musique des gens qui sont en vacances, mais c'est surtout la musique des gens qui restent. Ouais. C'est-à-dire que même quand tout le monde part en vacances, quand on dit tout le monde est parti, il y a quand même au moins de la moitié des Français qui sont chez eux. Et ils écoutent sur les radios ces programmations. Quand ils vont chez les disquaires toujours ouverts à l'époque du 45 tours, ils voient des disques et ils sont toujours dans leur HLM, dans leur village, dans leur petite sous-préfecture. Et eux aussi, ils vont se mettre à écouter, consommer cette musique dite de vacances, alors qu'ils ne sont pas en vacances. Et c'est là que on a eu ça avec la Lambada, on a eu ça avec je ne sais combien de grands titres exotiques. Les Français sont d'énormes consommateurs de musique tropicale en été.
Alors il y a aussi Alain Pozzoli, des découvreurs de tubes de l'été. On a une petite surprise, une archive de Giscard d'Estaing, détecteur de tubes de l'été.
vous écoutez les disques,
oui,
les variétés.
Et j'ai un don, je ne sais pas s'il est très utile, qui est de détecter les tubes. Je dis ça aux maisons de disques qui avaient besoin
Oui.
de... Car je me souviens, si vous voulez, c'est très frappant, hein. Peut-être parce que j'ai le goût de la chanson, mais quand il y en a une qui est très bonne, on peut dire que je la détecte presque tout de suite. Je me souviens, j'étais un jour en Californie, sur la route, j'avais bu beaucoup de champagne californien, ce qui est une épreuve, surtout qu'il y avait une température très forte, j'étais donc dans une espèce de brouillard, et il y avait la radio de l'auto, qui jouait un air. Je me suis dit, ça sera un tube mondial. Et en arrivant, j'ai dit, tâchez de savoir ce que c'était que cette chanson à la station de radio. Et c'est une chanson qui s'appelait Que sera, sera, et qui est devenue un tube mondial.
Que sera, sera. Voilà, da, 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 da. Vous aviez tout à fait raison, monsieur le président.
Ah, ça, c'était gagné. Engager,
hein, parce que... Et je peux dire à Adamo que, par exemple, vous permettez, monsieur, que j'emprunte votre fille. La première fois où j'ai entendu, j'étais sûr que ce serait un tube.
On va s'en servir comme parodie.
Eh bien, c'était gagné.
On va s'en servir comme parodie.
Bravo. Et quels sont vos pronostics?
Non, pour l'instant, j'attends qu'une maison de disques veuille bien me contacter.
Ah oui, vous lui réservez votre avis.
Voilà, le président Giscard d'Estaing, découvreur de tubes de l'été, hein, c'était sur France Inter dans l'oreille en coin du dimanche matin. C'était le 15 juin 86. Alain Podoli, hors de la blague, deux histoires quand même qui sont mises en avant, celle de Que sera, sera et celle de Vous permettez, monsieur. Peut-être pouvez-nous raconter un ou deux exemples justement des tubes que vous avez sélectionnés. Pourquoi est-ce que vous les avez sélectionnés?
Ben, ce qu'on a voulu faire, comme je disais tout à l'heure, c'est choisir des tubes vraiment qui sont des standards, donc qui sont des chansons immortelles. Et on a cherché, on a mis des goûts personnels bien évidemment, mais pas que, parce qu'il fallait quand même respecter la réalité.
Mais il y en a, puisqu'on voit qu'il n'y a pas beaucoup de rap, justement, qu'il n'y a pas beaucoup d'électro, même dans les années 90.
Il n'y a pas beaucoup de rap, parce qu'on avait déjà, il fallait se limiter à ça, un titre. Et l'idée du tube tel qu'on l'a, c'est que c'est vraiment, dans une parenthèse, les tubes les plus importants sont entre 60 et 80. Et après, la consommation de la musique s'est fait un petit peu différemment. Parce que dans les années 60-70, on avait 2-3 radios importantes auxquelles on pouvait pas couper. Donc, c'était les mêmes titres qui passaient dans chacune des radios. À la télévision, il y avait 2-3 chaînes, on pouvait pas passer outre. Donc, tout le monde écoutait exactement les mêmes chansons. Puis à partir des années 80 et des radios libres, ça s'est complètement diversifié. Et de plus en plus, chaque type de consommateur de radio a eu sa propre radio, ce qui fait que chacun n'écoutait plus ce qu'écoutait le voisin. Donc l'ampleur du tube est complètement différente.
Alors c'est vrai qu'on parlait de la teneur aussi, hein. Il y a la petite histoire racontée par le tube, et puis il y a d'autres résonances en fonction du contexte aussi social, hein. Il n'y a pas que des chansons gays qui ont été tubes de l'été. Et là on a un exemple de chanson triste d'été, celle d'Aline.
C'est là qu'un jour je dis bon, faut que j'essaie de chanter en français, et puis je me retrouve dans un petit magasin en construction à Juvisy-sur-Orge, sur une caisse à outils, et avec ma guitare, et pendant l'heure du déjeuner, en 12 minutes et 56 secondes à peu près, je construis Aline. Ma grand-mère m'appelle pour me dire que Daniel, il faut que tu viennes déjeuner, c'est l'heure, et je déjeune, et à 3 heures je prends le train pour Paris. Bonjour Paris, il faisait un temps assez fantastique, je me souviens de cette journée. Et j'arrive dans une maison de disques avec des gens, et je chante ma chanson, et je vois trois personnes hurler en disant fantastique, tomber par terre, bravo, je comprenais pas tout ce qui se passait.
J'avais dessiné sur le sable son doux visage qui me souriait. Puis il a plu sur cette plage dans cet orage. Elle a disparu et j'ai crié, crié Aline pour qu'elle revienne, et j'ai pleuré, pleuré, oh j'avais trop de peine. Je me suis assis.
Alain Pozzoli, on disait que tous les tubes de l'été n'étaient pas gays. En voilà un pourtant qui parle de plage et de disparition.
Oui, mais il y a même pire que ça. Je crois que pour moi, le tube de l'été le plus surprenant, c'est L'Aigle Noir de Barbara, qui aborde quand même un sujet autrement plus délicat que celui-là.
Que l'on a compris au moment où elle a écrit ses mémoires, voilà. Complètement. Hein.
Jusque-là, personne n'avait imaginé ça. Et c'est vraiment un contre-exemple, quoi. Un tube de l'été, c'est pas forcément quelque chose de creux et de naïf.
Alors, quelques mots sur Aline, peut-être? 1965.
Oui, bah,
c'est Christophe, évidemment, qu'on entendait.
C'est l'exemple aussi d'un phénomène qui est lié au tube en général et au tube de l'été. C'est que une chanson, une seule chanson peut faire devenir un inconnu, une superstar en quelques semaines. Parce qu'avant Aline, personne connaissait Christophe. En même temps, Hervé Villard avait sorti Caprice est fini, même chose. Premier disque, on savait pas du tout qui il était. Et c'est devenu des succès mondiaux, parce qu'ils ont vendu dans le monde entier.
Bertrand Dical, il y a quand même cet effet de surprise dans le tube de l'été. Il y a quand même cette idée que le choix est toujours un peu incertain. Ce qui fera tube, ce qui ne fera pas tube.
Mais c'est la glorieuse incertitude du sport, ma chère. C'est toujours ça, de toute façon, avec la musique. C'est les phases B qui deviennent des standards, c'est les artistes qui sont formatés qui échouent, c'est tomber la chemise de Zebda qui devait pas être sur l'album et qui devient le plus gros succès de leur carrière jusqu'à leur permettre de vivre jusqu'à la fin de leur jour. Quelque chose qu'on peut toujours expliquer, mais on peut toujours expliquer a posteriori.
A posteriori.
Tout est prévisible a posteriori. C'est-à-dire que quand on voit Aline, il y a quelque chose d'absolument génial dans Aline. Ça raconte quoi? Il a plu sur la plage, et maintenant c'est l'automne. Bon, ben, ça tombe bien, la chanson commercialement, elle est à peu près à égalité avec Caprice est fini pendant tout l'été, d'Hervé Villard, mais sauf qu'à l'automne, Aline, elle va très bien à l'automne. Et c'est presque plus une chanson pour l'automne et pour être triste et pour être malheureux quand il pleut et qu'on est au boulot, plutôt qu'une chanson pour célébrer l'été. Et ce qui était un tube de l'été devient un énorme tube à l'automne et rentre à jamais dans la légende et devient, ce que disait Alain, un succès totalement étouffant pour Christophe, qui a passé quasiment toute sa carrière, non pas à se battre contre Aline, mais
c'est le double tranchant du tube de l'été, peut-être. Hein,
c'est le double tranchant, mais beaucoup de gens ont bien l'idée d'avoir, voilà, c'est
il y a plus grande souffrance.
Oui, effectivement. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que 10 ans plus tard, Capri comme Aline se sont revendus à 1 million d'exemplaires.
Alors ça, c'est la deuxième vie, parfois troisième ou quatrième même. Parfois, il y a cette idée.
Et dans la même je veux dire, c'est la même orchestration, ça n'a pas été rechanté, réenregistré. C'est vraiment le même disque qui, 10 ans après, refait un carton.
Alors là, est-ce qu'on peut parler de la mode du vintage ou est-ce que c'est justement...
Oui, certainement, il y a la nostalgie qui a joué très tôt. Hein.
Mais la nostalgie, elle est intrinsèque au tube de l'été, Bertrand Dical. C'est aussi le principe même du tube de l'été.
C'est le principe de la musique, c'est le principe de la musique populaire qui, si on l'écoute... La musique populaire est souvent de la musique d'ameublement.
Ça marche avec
pas qu'on s'assied devant la radio à écouter la radio en disant bah tiens je vais m'écouter 2 heures de musique ininterrompue. Non, elle nous accompagne dans notre vie et soudain elle nous arrête. Et le tube de l'été, c'est là où je pense que la raison pour laquelle il y a plein de choses paradoxales, c'est que quand on est dans la torpeur de l'été, qu'on soit en vacances ou qu'on soit dans le magasin désert à attendre les clients en plein mois d'août, il y a soudain une chanson qui passe à la radio qui nous arrête. Et celle-là, pour son émotion, c'est pour ça qu'elle va devenir un tube de l'été. Je pense qu'un accident de Michel Sardou, qui est une chanson presque inaudible...
Décidément, on y retourne.
Non, mais tellement elle est dramatique, tellement elle est infernale, tellement elle est à proprement parler atroce. Et c'est un tube de l'été, et c'est incontestable, les chiffres de vente sont là. Les gens des radios ont témoigné, elle a été bastonnée à la radio, cette chanson-là, alors qu'elle est insupportable. Alors, c'est un vrai tube de l'été.
On va parler un peu de la forme aussi, Alain Pozzoli, il y a cette chanson La Cavalerie de Julien Clerc, à laquelle je faisais allusion, qu'on va écouter dans un instant. Il y a cette idée d'une chanson qui est complètement en adéquation avec des événements, mai 68, ces répétitions qui arrivent un peu comme un slogan. Et cette chanson qui va accompagner le mouvement, qui va être l'image même, l'empreinte sonore.
Mais ce qu'il y a, c'est qu'en mai 68, ça a quand même tout. C'est pas un scoop, hein, tout a été bouleversé. Mais dans le domaine de la musique, il s'est passé un phénomène, c'est que toutes les vedettes en place, les grosses vedettes des 60s, donc de l'époque yéyé, ont été mises en danger par l'arrivée d'une nouvelle génération dont Julien Clerc était le représentant. Et c'était des chansons construites complètement différemment.
Avec un engagement aussi propre à ces Rodagile, voilà, des gens
Rodagile
qui étaient très militants.
Écrivait des textes qui n'étaient pas populaires, loin de là. Donc c'est une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon de travailler, une nouvelle façon de sentir, une nouvelle façon d'avoir des émotions, en fait.
On va l'écouter, Étienne Redagil, c'était au micro de Michel Grégoire sur France Inter, dans Bien Entendu, le 4 mai 98.
Alors, la première chanson qui est sortie, c'était quoi?
Ah bah, c'était La Cavalerie, c'est Abolir l'ennui, en mai 68. Bon, c'est tombé bien, là. Ça va bien, donc c'est passé en boucle pendant tous les événements de mai 68, sans annonce ni désannonce.
La cavalerie.
La cavalerie, voilà. Mais bon, et ça, j'étais assez fier de lui, assez fier de moi. On était assez fiers de nous-mêmes, d'ailleurs. Voilà.
Quand je vois les motos sauvages qui traversent nos villages, venues de Californie, de Flandre ou bien de Paris. Quand je vois filer les bolides, les cuirs fauves et les cuivres qui traversent le pays. Dans le métal et le bruit, moi je pense à la cavalerie. Moi je pense à la cavalerie. Quand s'éloigne la tourmente, quand retombe la poussière pesante, et que sombre le pays dans le sommeil et l'ennui, comme dans les films héroïques, aux moments les plus critiques, quand tout coule dans ma vie, quand tout semble compromis.
Bertrand Dickel, ça tombait drôlement bien quand même, le métal et le bruit. Alors c'était pas nécessairement prévu au moment de la sortie de la chanson, mais cette chanson, elle portait quand même l'imaginaire politique d'Étienne Redagil, et ça n'était pas un hasard.
Oui, alors c'était pas un hasard. Ce qui était un hasard, c'est que ça tombe à ce moment-là. C'est-à-dire que il y a un certain nombre de chansons qui sont enregistrées avant mai 68, celle-là, et qui en mai 68 ou juste après prennent du sens et prennent un sens très étonnant, comme une chanson de Jenny Hallyday qui pour le coup est un vrai tube pendant l'été mai 68, pendant l'été 68 pardon, et pour lequel il faut même mettre une note au dos de la pochette du 45 tours en disant que cette chanson a été enregistrée avant les événements. C'est Jeune homme, et c'est une chanson assez violente qui dit jeune homme, tu crois tout savoir, mais la vie c'est plus compliqué que ça. Et quand on entend la chanson après mai 68, on se dit mais c'est pas possible, c'est une réaction. Sheila qui fait un énorme tube cet été là aussi, qui fait un gros succès avec Petite fille de français moyen, dans laquelle elle critique les petites filles de grandes familles qui s'intéressent à la dialectique, la politique et l'art ancien. Donc après mai 68, ça hurle. Donc on sait aujourd'hui que la chanson était écrite avant, sauf que l'auteur de la chanson, Monty, qui était un ancien chanteur yéyé sur le retour, sur le déclin, dit absolument c'est une réaction au bordel qu'il y a eu. Heureusement, le général de Gaulle a mis tout ça au pas. Donc c'est vrai que quand on entend aujourd'hui ces chansons-là, on est devant des choses tout à fait innocentes et qui, à l'époque, sont vraiment des objets de combat.
Ah oui, sans que ce soit vraiment des hasards non plus, puisque les artistes sont aussi imprégnés de cette ère du temps-là, et ça, tout ça, ça passe dans cette musique. Alors, je pense aussi aux Beatles, hein, que vous citez, aux Leonid Is Love, etc., qui arrivent en plein mouvement hippie, et qui sont les reflets de ces mouvements.
Il y a eu énormément de tubes nés de ce mouvement, que ce soit en France ou à l'étranger, bien évidemment.
Aloïs Sauvage, une autre reprise, on va vous demander une autre reprise, si tout va bien. Une reprise de Diams que vous avez choisi de faire. Peut-être quelques mots sur Boulette et sur votre amour pour Diams.
Ah bah oui, j'ai un amour.
Est-ce qu'on peut parler de ça, je crois?
Très prononcé pour Diams, pour le rap français de manière générale. Et pour le coup, je sais pas si c'était, enfin pour moi Diams n'a fait que des tubes, mais évidemment c'est peut-être dû à chacun dans son microcosme et de ce qu'on écoute via les radios libres, justement, de ce qui était dit auparavant. Mais voilà, son écriture et ses chansons m'ont vraiment marqué étant préadolescente et même adolescente, même jeune adulte, je dirais,
Et je pense que j'ai eu envie d'écrire des chansons en l'écoutant ainsi témoigner avec tant de viscéralité, quoi.
Et puis Boulette, alors là, on peut parler aussi d'une résonance sociale très forte, une chanson contestataire.
Oui, oui, tout à fait, ouais, c'est clair. Bah, moi, en plus, je sans rentrer dans les clichés, mais moi, on écoutait énormément tous les rappeurs français de l'époque. Je venais de banlieue, je faisais du break. Ça avait tout un... C'était des chansons qui nous rassemblaient et dans lesquelles on se... dans lesquelles on, comment dire, on entendait notre quotidien, nos problématiques à nous et nos désirs d'ailleurs et de réussite. Donc forcément, quand ça touche directement à ce que l'on vit et ce que l'on ressent émotionnellement, ça a un impact très fort. Donc oui, James résonnait dans pas mal d'enceintes.
Non, mais vous écoutez la chanter.
C'est parti. Y'a comme un goût de haine quand je marche dans ma ville, y'a comme un goût de gêne quand je parle de ma vie, y'a comme un goût d'aigreur chez les jeunes de l'an 2000, y'a comme un goût d'erreur quand je vois le taux dessus. S'ils me demandent pas ce qui les pousse à casser des vitrines, je suis pas la mairie, je suis qu'une artiste en devenir, moi. Je suis qu'une boulette, me demande pas si j'ai le bac, j'ai que le rap et je l'embarque, je l'embrasse, je le mate car je l'embrasse. Y'a comme un goût d'attentat, comme un goût de Bertrand Cantat, comme un goût d'anthrax pendant l'entracte. Y'a comme un goût de foulette chez les mots. Comme un goût de boulette sur les ondes. Alors ouais, on déconne, ouais, on étonne. Non, non, c'est pas l'école qui nous a dicté nos codes. Non, non, génération, non, non. Alors ouais, on déconne, ouais, on étonne. Non, non, c'est pas l'école qui nous a dicté nos codes. Non, non, génération, non, non. Y'a comme un goût de viol quand je marche dans ma ville, y'a comme un goût d'alcool dans les locaux de police, y'a comme un goût de peur chez les meufs de l'an 2000, y'a comme un goût de bœuf dans l'oxygène qu'on respire. Me demande pas ce qui les pousse à te casser les couilles. J'suis pas les secours, j'suis qu'une petite qui se débrouille, moi. J'suis qu'une boulette, me demande pas si j'aime la vie, moi j'aime la rime et j'emmerde Marine juste parce que ça fait zizir. Y'a comme un goût de bad boy, comme un goût d'Al Capone, comme un goût de hardcore dans les écoles. Y'a comme un goût de foulette chez les mômes. Comme un goût de boulette sur les ondes. Alors ouais, on déconne, ouais, on étonne. Non, non, c'est pas l'école qui nous a dicté nos codes. Non, non, génération, non, non. Alors ouais, on déconne, ouais, on étonne. Non, non, c'est pas l'école qui nous a dicté nos codes. Non, non, génération, non, non. Génération, non, non.
Merci Eloïse.
Merci beaucoup, c'est un plaisir de pouvoir la faire en direct.
Elle a chanté en direct, c'est très beau. Peut-être que cette charge émotionnelle qu'on entendait là, elle est très différente de la chanson originale de Diams. C'est peut-être aussi une autre manière de faire vivre la chanson que de changer ce qu'on y met à l'intérieur. Alors, il y a des petites variantes de rythme, mais il y a aussi cette manière à vous de la chanter, de la rapper chanter. Peut-être vous pouvez nous parler de la manière dont vous l'avez travaillée. Un point de vue très pratique même.
Oui, bah je l'ai beaucoup moins entre guillemets modifié à ma sauce que la reprise de Voyage par exemple, parce que pour moi dans Diams tout ce qui me touche à moi particulièrement, c'est justement l'intensité qu'elle met dans son phrasé, toute l'intention qu'elle met en fait à chaque fois que sort un mot de sa bouche. Donc c'est ça qui me touche. Et peut-être qu'on l'entend dans ce que j'entends de vous, peut-être qu'on l'entend en tout cas bien, je dirais pas davantage parce que là je vais pas me comparer à Diams, mais peut-être qu'on l'entend bien dans cette version là que j'ai proposée, parce que finalement je suis allée à contre-courant au niveau de la production. Alors elle a été composée par Wax et Sicole, que je remercie encore aujourd'hui en direct, et du coup beaucoup plus douce, avec une petite guitare qui tenait la chose mélodiquement. Alors peut-être que le texte avait encore plus de place. Bon, je dirais que dans les chansons de Diams, quand même, il n'y a pas besoin. Enfin, le texte a largement sa place et on l'entend justement. C'est pour ça que moi, j'aime le rap. Mais voilà, je l'ai travaillé aussi sincèrement que possible.
Bertrand Dickel, c'est vrai que quand on a, à chaque fois qu'il y a une reprise, les sensibilités se superposent des artistes. Peut-être un mot sur cette reprise d'Aloïse Sauvage. C'est vrai qu'il y a peut-être moins de passages du livre qui sont dédiés au hip-hop et au rap, qui n'ont pas toujours fait l'objet nécessairement de tubes, mais qui néanmoins ont été des marqueurs culturels très forts, peut-être pas pour l'ensemble d'une population, mais pour beaucoup de gens.
Et c'est ce que disait Alain, qui est une vraie évidence sur le temps long. dans l'histoire des musiques populaires en France. Il y a eu un moment pendant lequel les gens de la haute, les bourgeois, les nobles, pouvaient échapper totalement à la musique populaire. Ils n'allaient pas au CAFCONS et ils discutaient pas avec les domestiques. Et puis, il y a eu un moment, on y est aujourd'hui, où si on veut totalement échapper au hip-hop français, on peut. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut être un adulte, même un jeune adulte, ne rien savoir de Niska et de Ninho, ne pas les écouter, ne pas les fréquenter, ne pas aller sur Spotify ou sur Deezer, ne pas aller sur YouTube, ne pas regarder ça. Et puis, il y a un moment qui dure grosso modo une soixantaine d'années, pendant lesquelles il y a la radio, et puis la télé ensuite, mais principalement la radio, qui fait qu'on est des millions à être exposés. Et là où c'est intéressant, c'est que Diams, Aloïse parle avec feu et avec une vraie sincérité profonde de son rapport à Diams. Mais il y a des gens qui ont écouté La Boulette et qui détestaient. Mais ça fait partie de leur culture. Et c'est aussi ça qui est très très important et qui nous façonne tous. C'est que le tube de l'été, c'est l'exemple type de la culture qu'on n'a pas choisie.
Mais ça peut être l'exemple type d'un changement aussi fort. Diams, c'est aussi une des premières femmes qu'on entend rapper en France, Aloïse Sauvage. C'est aussi ça qu'elle représente.
Oui, c'est vrai. Hein. Ouais. C'est vrai qu'on m'avait posé la question si ça avait justement, aider que j'ai un attachement aussi fort pour cette artiste, le fait qu'elle soit une femme. Je pense que c'était peut-être inconscient à l'époque, à l'âge que j'avais, mais en tout cas... J'en écoute justement du rap parce que je suis vraiment amoureuse de ce style de musique et de la culture hip-hop de manière générale. Il y en a eu, mais c'était plutôt du côté des États-Unis à ce moment-là en tout cas.
Alors vous parlez des États-Unis, Alain Pozzoli, c'est une des questions que je voulais aborder. On se rend compte à travers le voyage en laissant un tube de l'été que il y a une dimension très internationale, parfois assez improbable. C'est-à-dire qu'il y a des tubes qui vont voyager à l'étranger, d'autres qui ne vont marcher qu'en France. Il y a aussi l'importation de tubes étrangers en France et de tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que de l'anglo-saxon, il y a des tubes italiens, grecs, espagnols qui sont arrivés en France.
Comme disait Bertrand, il y a différentes cultures qui se sont imposées par le biais de la chanson. On peut presque dire que par décennie, il y a un pays qui surgit. Les années 50, c'était l'Espagne. Les années 60, ça a été l'Italie. Il y a eu aussi la Grèce. Et plus on avance dans le temps, plus à un moment donné, un pays exotique vient au devant de l'actualité. Je pense au tube de ça y est, son nom m'échappe, Saudade de Cesaria Evora.
Cesaria Evora, Cap Verdienne.
C'est le Cap Vert. Il y a toujours un moment où quelque chose de complètement inattendu s'impose. Et est accepté par tout le monde et ça crée une mode.
Alors il y a plein d'exemples, il y a Zorba le Grec, il y a énormément de les musiques de films, il y a tout ça, mais il y a aussi les musiques dansantes, il faut quand même en parler. Et il y a des musiques qui sont des matraquages, qui sont un peu presque des faux tubes, c'est-à-dire que c'est des musiques qui ont été matraquées par les télévisions. Il y a la Lambada est l'exemple.
Ça c'est le phénomène du tube de l'été, le matraquage. Parce que, notamment à l'époque des années 60, un vrai tube, il était matraqué toute la journée, partout.
Alors, est-ce qu'il devient tube parce qu'il est matraqué ou est-ce qu'il est matraqué parce qu'il est un tube vertical ?
Les deux, c'est-à-dire qu'il y a les deux. C'est-à-dire que, dans le cas de Lambada, là où c'est complètement fou, c'est que à l'origine, bon, ils s'en sont jamais cachés en plus, et dès le premier jour, c'est marqué dans tous les journaux et de toutes les rubriques spécialisées dans la pub. C'est un partenariat entre une maison de disques, une boisson à goût d'orange qu'il faut secouer, une télé privée, une radio privée, et la radio privée s'engage à quelque chose de démentiel, je crois que c'est 100 passages par semaine. Et là où c'est complètement fou, c'est que cette radio qui a un accord commercial pour passer cette chanson, elle est dépassée par d'autres radios qui trouvent cette chanson absolument géniale et qui la diffusent à leur tour. C'est là où il y a un double effet. Il y a le matraquage commercial, le cynisme, la rouerie ou l'intelligence d'une maison de disques et d'un certain nombre de publicitaires. Et puis, il y a le goût du public qui disent à des programmateurs « Mais pourquoi vous passez pas cette chanson ? On l'a entendue, elle est absolument géniale. » Et tout le monde se met à la passer. Et dans le cas des nouvelles danses, des nouveaux genres de musique.
Alors des musiques qui sont des tubes qui sortent avec la danse, la chorégraphie imposée.
Hein. La Macarena,
par exemple. Macarena.
La Macarena. La Macarena, ce qui est amusant, c'est que ça devient un tube en France dans deux versions, Los del Rio et Los del Mar. On oublie toujours d'ailleurs de qui est la version originale. J'ose jamais me prononcer parce qu'il faut toujours que je regarde.
Un débat de fond, hein,
Oui, mais voilà, c'est un vrai débat. Mais c'est un tube qui a plusieurs années. Et ça devient un tube mondial, avec un retard absolument incroyable de plusieurs années. Mais il y a un moment où ça a soudain marché. Soudain, ça marche parce que on ne sait pas pourquoi le public accepte. Et à la même époque, il y a plein d'autres choses qui vont être tentées, la SketchUp par exemple, et puis plein d'autres groupes qui arrivent en nous proposant des chorégraphies, des gestes, et ça ne marche pas. Pourquoi la Macarena a marché ? Eh ben, peut-être parce que c'est meilleur que les autres.
Bon, eh ben on ne sait pas, on va rester sur ce débat. Mais à Louise Sauvage, nous, ce qu'on aimerait, c'est que vous nous chantiez une chanson de votre album Dévorante. Vous avez choisi Si on s'aime ?
Oui, j'ai choisi Si on s'aime. Bon, c'est pas encore un tube de l'été, mais en tout cas, je pense que c'est une chanson qui va bien pour l'été. Donc voilà, je trouvais qu'elle rentrait dans la thématique. Donc je vais vous la chanter maintenant.
On vous écoute.
Et tu ne décroches plus, ça m'écorche. Je m'efforce de rester fort. À la part esselée, tu m'as laissé sonner. Pas pour me réjouir, mais je sais que c'est moi qui lasse. Ton cœur n'aime pas le faux. Mes excuses font pas d'effet. Je ferai tout ce qu'il faut pour faire honnête notre compte de fées. Je me demande parfois pourquoi tout se perfore alors que c'était parfait. S'il te plaît, si on s'aime, oh, notre vie va être belle. Oh, allez viens je t'emmène. Oh, t'auras plus de problèmes. Oh, le bonheur à l'extrême. Oh, si on s'aime, oh, notre vie va être belle. Oh, allez viens je t'emmène. Oh, je sais que t'en as assez de ma voix qui déraille dès que je te parle de mon ex sans faire le vide en moi. Il suffit d'un mot de travers pour que la discussion dérape, parce que la peur de réavant mal prend toute la place. Tu as perdu confiance, j'en ai bien conscience. Pourtant mes yeux ne mentent pas, les jours n'ont plus de contours. Je ne sais plus quand la nuit me parle. Mes jours deviennent toutes rouges quand je te déshabille du regard. Donc s'il faut attendre pour à nouveau s'étendre sur le canapé ensemble, j'attendrai si on s'aime. Oh, notre vie va être belle. Oh, allez viens je t'emmène. Oh, t'auras plus de problèmes. Oh, le bonheur à l'extrême. Oh, si on s'aime. Oh, notre vie va être belle. Oh, allez viens je t'emmène. Oh, reviens-moi. Ton parfum qui m'entoure, c'est bien plus qu'une armure, mon amour. Si on s'aime, oh, notre vie va être belle. Oh, allez viens je t'emmène. Oh, t'auras plus de problèmes. Oh, le bonheur à l'extrême. Oh, si on s'aime, oh, notre vie va être belle. Oh, allez viens je t'emmène. Oh, allez viens je t'emmène.
Merci Aloïse Sauvage. C'était donc un extrait de votre nouvel album Dévorante, votre premier album qui est sorti en février.
C'est ça, il est sorti fin février, une dizaine de jours avant ce fameux confinement.
Mais il est ressort, il est là, il est exactement toujours là, il est il sur les plateformes,
toujours,
il est dans
d'ailleurs
les bacs, il va vivre pour toujours.
Et ça a tout pour faire un tube de l'été.
Hein. Ah oui, alors ah, vous voulez, alors on retient bien le refrain.
Ah, ouais, le on petit a... gimmick. Oh.
On a toutes les composantes,
ah, ouais,
on les retrouve.
Je trouve.
Est-ce que ça existe encore, les tubes de l'été ? C'est une vraie question, Bertrand Dical. Est-ce que dans notre manière d'écouter la musique, peut-être plus solitaire, dans nos écouteurs, est-ce qu'on s'est détaché de la musique écoutée en collectivité ?
Oui, Évidemment, les tubes de l'été, c'est fini parce qu'on n'achète plus de 45 tours dans les prises uniques. Mais en même temps, ça peut, voilà, ça peut,
vous nous prie.
ça peut réexister avec des chansons très très fortes. Alors cette année, il faut quand même admettre que le Aya Nakamura, le titre de Blackpink, hélas, le titre de Bosch, Jump. Oui, qui est encore un monument de phallocratie et de sexisme, mais bon, c'est
Louise,
c'est...
vous cautionnez, vous êtes d'accord
avec au niveau du contenu, oui. C'est vrai que c'est assez fascinant d'un coup comment une musique explose. Moi, je le vois, et puis je suis très très attachée au réseau, à Internet, et je vois comment on écoute la musique aujourd'hui par toutes les plateformes de musique. Bah, en effet, il était temps de toute façon de citer Aya Nakamura. C'est vrai que déjà l'année dernière et encore cette année, ouais, enfin, on l'a dans la tête. Qu'on le veuille ou non, en tout cas.
Voyage aussi. Merci à tous les trois d'avoir été ici aujourd'hui. Alain Pozzoli, Bertrand Dical et Aloïse Sauvage. Alain Pozzoli, je rappelle votre ouvrage « Sans un tube de l'été » coécrit avec Jean-Marie Potier aux éditions du Layeur. Bertrand Dical, votre chronique de l'été sur France Info s'intitule « Ces chansons qui font l'été ». Et Aloïse Sauvage, votre premier album a pour titre « Dévorante ». Tout de suite, c'est la fiction « Imagine le monde de demain » de France Culture avec la SACD et en partenariat avec le Théâtre de la Ville en soutien à la création et aux auteurs. Aujourd'hui, avec un Hardly Express d'Olivier Piratchik, réalisé par Sophie Haute-Picon.
I Can Hardly Express, une fiction écrite par Olivier Piechazik. Le 19-92-08. Le 19-92-08.
Oui, c'est moi.
Le 19-80...
Bonjour, excusez-moi, j'étais en pleine...
Votre ticket.
Pardon ?
Votre ticket. Le ticket que l'on vous a remis à l'accueil. On ne vous a pas remis de ticket ?
Si, bien sûr, mon ticket. Le ticket qu'on m'a remis à l'accueil.
Donnez-le-moi.
Oui.
Eh bien ?
C'est-à-dire que je... Je sais plus ce que j'en ai fait.
J'ai besoin de votre ticket.
Oui, je comprends, mais...
Sans votre ticket, je ne peux pas vous traiter.
Oui, bien sûr. Laissez-moi seulement le temps de remettre la main dessus.
Sans votre ticket, je ne peux pas vous traiter. Le temps de ce traitement est décompté. Si vous n'avez pas ce ticket, je vous demanderai de quitter les lieux.
Écoutez, je me souviens parfaitement de mon numéro, le 19 80 12 08. J'ai une excellente mémoire. On me surnommait Ram au lycée.
Oui. Et ?
Et donc je suis là, devant vous, le 19 80 12 08.
Sans votre ticket, je ne peux pas...
Vous traiter, oui, j'ai compris. Qu'est-ce que j'ai foutu de ce putain de ticket ?
Je vous demanderai de surveiller votre langage.
Excusez-moi. Je me suis présenté à l'accueil, j'ai exposé ma requête, on m'a remis un ticket, on m'a dit d'attendre que l'on appelle mon numéro, le 19 80 12 08, c'est imprimé dans ma mémoire, vous voyez, je m'en souviens parfaitement. Bien, je me suis assis dans la salle d'attente, j'ai attendu, j'ai pris mon bouquin... Ah ! Mais oui, quel con.
Votre langage, s'il vous plaît.
Excusez-moi.
C'est la dernière fois que je vous avertis. À votre prochain écart de langage, je vous demanderai de quitter les lieux.
Je comprends.
Allez-vous me donner votre ticket, oui ou non ?
Oui. Le voici. Il était dans mon bouquin.
Votre livre ?
Oui, j'avais plus de marque-page, alors...
Vous lisez des livres imprimés ?
Oui.
Pourquoi ?
Eh bien, j'aime la sensation du papier, l'odeur, le toucher.
D'accord. Vous savez que je suis tenue de le signaler.
Ah bon ?
Bien évidemment. Les risques de contamination sont multiples. Vous n'êtes pas sans l'ignorer.
J'y fais très attention.
Oui, peut-être. Mais répond-il à toutes les normes d'hygiène ?
Les normes ?
Les normes d'hygiène dont, visiblement, vous n'avez pas entendu parler.
Je ne sais pas.
Fongicides, bactéricides, antivirus, antiacariens, inifugation, il y a des normes à respecter. Vous avez le certificat de mise en conformité normative pour votre livre ?
Le ?
Le certificat de mise en conformité normative.
Pas vraiment.
Vous ne l'avez pas ?
Non, pas encore.
Mettez immédiatement votre livre dans cette pochette stérile.
D'accord.
Quel besoin avez-vous de transporter un livre imprimé ?
J'aime lire.
Des livres ?
Oui.
Mais pourquoi celui-ci ?
Il n'a pas été numérisé.
Pardon ?
Ce livre n'existe que sous la forme imprimée.
Vous possédez un ouvrage imprimé qui ne fait pas partie du catalogue numérique officiel ?
C'est-à-dire qu'il ne date pas d'hier.
Il ne fait pas partie du catalogue numérique officiel ?
Non, enfin, pas encore, mais ça ne serait tardé, je pense.
Vous en possédez d'autres ?
Quelques-uns, oui. Cela vous intéresse ?
Restez à votre place.
Excusez-moi.
Gardez vos distances. Vous êtes en possession d'un livre non conforme aux normes d'hygiène. Il y a de fortes chances que vous soyez contaminé.
N'exagérons pas, je fais très attention à mon hygiène.
En vous promenant avec un objet grouillant de bactéries, bien sûr.
Mais enfin, c'est qu'un livre. Un livre un peu vieux, d'accord, mais rien qu'un vieux bouquin.
Justement.
Vous savez que c'est pas très bon pour la santé.
Les vieux livres ? Oui, je sais.
Non, votre gel désinfectant.
Pardon ?
J'ai lu une étude qui affirmait que cela contenait des perturbateurs endocriniens.
Vous avez lu une étude ?
Oui.
Dans un vieux livre ?
Non, pourquoi ?
Laissez tomber.
Il existe des désinfectants naturels. Le thym, l'eucalyptus, la lavande, le miel, le jus de citron. J'ai de très beaux pieds de lavande et de thym.
Pardon ?
Oui, je cultive quelques plantes, quelques fleurs. Oh, pas grand-chose. Cela m'apaise.
Si vous le dites.
On vous a déjà offert des fleurs ?
Bon, assez perdu de temps. Passez votre puce au-dessus du lecteur. 12, 5, 14, 14, 15, 14. Clé XX.
Voilà.
Je vous écoute.
Vous ne voyez pas ?
Non.
Vous ne constatez pas le problème ?
Quel problème ? Arrêtez de jouer aux devinettes, s'il vous plaît. Je ne suis pas là pour ça et le temps de ce traitement est décompté.
Ce n'est pas la bonne clé.
Et ce serait quoi la bonne clé ?
XY.
Impossible.
Comment ça, impossible ?
Votre puce indique la clé XX. C'est donc XX, votre clé.
Oui, ma puce indique la clé XX. C'est bien pour ça que je suis là, pour vous faire remarquer qu'il y a une erreur.
Quelle erreur ?
XX au lieu de XY, au niveau de la clé.
Mais puisque je vous dis que c'est impossible, les informations contenues dans votre puce sont définitives et théoriquement inaltérables.
Théoriquement ?
Oui.
En l'occurrence, vous êtes face à un cas pratique qui remet en cause la théorie.
C'est vous qui remettez en cause les informations de votre puce.
C'est moi, parce que toute ma vie, j'ai vécu avec une clé XY, et que depuis hier, elle a changé. Enfin, c'est évident, non ? Je ne correspond absolument pas à la clé XX.
Je n'en sais rien.
Mais regardez-moi, est-ce que j'ai l'air d'une clé XX ?
Pas vraiment.
Ah !
Mais cela ne prouve rien. Vous pourriez tout à fait être un imposteur qui tente d'officialiser le piratage de sa clé. Ça s'est déjà vu.
Je croyais que les puces étaient inaltérables. C'est pas ce que vous avez dit ?
Elles le sont. Il y a eu des tentatives, mais tous ceux qui ont essayé de les altérer se sont fait prendre. On ne peut donc pas parler de piratage réussi.
Je ressemble à un pirate ?
Vous ne ressemblez à rien.
Merci.
Tout comme les pirates.
Mais bon Dieu, pourquoi je voudrais changer de sexe ? J'en ai aucune envie, au contraire !
Calmez-vous, s'il vous plaît. J'appelle la sécurité si vous ne restez pas calme et courtois.
Ah ?
Quoi ?
Vous avez dit courtois ?
Oui, j'ai dit calme et courtois.
Vous n'avez pas dit calme et courtoise ? C'est donc que vous me voyez comme une clé XY ?
Ça m'a échappé.
Ça en dit long ?
Pas du tout. Je vous accorde que j'ai fait un lapsus. Mais c'est sans importance.
Et quelle mauvaise foi. Admettez que si vous n'aviez pas lu mon immatriculation, vous me considéreriez comme une clé XY.
Cela ne prouve rien. Peut-on continuer votre traitement ?
Je vous en prie.
Votre dossier numérique indique un voyage à l'étranger, dernièrement.
Oui, je me suis rendu en Amérique du Sud pour mon travail. Je suis ethnologue.
Dites-moi plus.
J'ai séjourné plusieurs semaines au sein d'une peuplade primitive sur laquelle je travaille. C'était ma première rencontre avec ces gens. J'en ai tiré une somme considérable de notes que je suis en train de rédiger pour une publication future.
Vous êtes tombé malade sur place ? On vous a prodigué des soins ?
Non.
Vous vous êtes blessé ? Vous avez subi une intervention chirurgicale quelconque ?
Non, pas du tout.
N'essayez pas de me cacher quelque chose. Ce serait vain. Nous finissons toujours par connaître la vérité.
Mais je ne vous cache rien.
Vous n'êtes pas sans ignorer qu'il existe un commerce illégal d'opérations chirurgicales particulières dans ces pays arriérés. Avez-vous subi ce genre d'intervention ?
Non, bien sûr que non, c'est insensé.
Pas tant que ça. Je me dois d'explorer toutes les possibilités de fraude.
Je n'ai pas fraudé, je me suis réveillé hier avec cette nouvelle clé sans savoir comment ni pourquoi. C'est une anomalie que je vous signale et que je vous demande de rectifier. C'est pas plus compliqué que ça.
C'est vous qui le dites. Durant votre séjour dans cette peuplade, avez-vous consommé des substances psychotropes locales qui auraient pu altérer votre jugement ou votre psyché ?
Non.
Quand vous êtes-vous rendu compte de ce changement ?
C'est un peu embarrassant.
Vous désirez que je comprenne ou pas ?
Oui.
Alors je vous écoute.
Hier matin au bureau, j'ai dû aller aux toilettes. Le scanner d'ouverture des portes m'a refusé l'accès.
Des toilettes ?
Oui, des toilettes pour hommes. J'ai essayé un nombre incalculable de fois sans résultat. J'ai cru d'abord à une panne du scanner, mais lorsqu'un collègue a voulu s'y rendre, il a pu y entrer sans problème.
Aux toilettes ?
Oui, aux toilettes pour hommes.
Ensuite ?
Je lui ai emboîté le pas, mais l'alarme d'intrusion inappropriée a retenti dès que je suis entré, et j'ai dû en sortir.
Normal, vous avez une clé XX. Vous n'aviez rien à faire dans les toilettes pour hommes.
Finalement, n'y tenant plus, je suis allé devant le scanner des toilettes pour femmes.
Et là, vous avez pu entrer ?
Oui. Vous n'imaginez pas comme ça peut être embarrassant. Tous ces regards sur moi.
Vous avez quelque chose contre les clés XX ? Vous ne les aimez pas ?
Mais si ! Bien sûr que si. C'est juste qu'elles ne me correspondent pas.
Elles ne vous correspondent pas ?
Non, elles ne correspondent en rien à ce que je suis.
Et vous êtes ?
Une clé XY. Un homme.
Ce n'est pas ce que dit votre puce.
Et c'est bien pour ça que je suis là.
Pour me demander de déclencher une réinitialisation de votre puce.
Voilà !
Qui officialisera votre changement de sexe. Vous savez que c'est absolument illégal ? Non seulement vous violeriez l'une des lois majeures de renseignement bioéthique, mais en plus vous feriez de moi votre complice. Ah, je dois dire qu'on ne l'avait jamais faite, celle-là. Vous ne manquez pas d'estomac avec votre air de... De rien, en fait.
Mais je vous demande pas un changement de sexe, je vous demande une restitution de sexe. C'est tout de même pas compliqué à comprendre, merde.
Cette fois, j'appelle la sécurité. Vous allez trop loin.
Si vous appelez la sécurité, je vous jette mon livre au visage. Un livre plein de poussière, de bactéries, de virus et d'idées saugrenues. Un livre imprimé, une antiquité dégueulasse, un objet de contamination abjecte.
Calmez-vous. Calmez-vous, calmez-vous. Et remettez ça dans sa pochette, s'il vous plaît. Ne commettez pas l'irréparable. Vous pouvez encore vous en sortir sans trop de conséquences. N'aggravez pas votre cas et écoutez-moi. Je vous concède que vous avez un petit air de clé XY. Surtout lorsque vous vous emportez.
C'est gentil.
Mais cela ne change rien au problème. Commencez par ranger votre livre et nous continuerons notre entretien.
Vous n'appellerez pas la sécurité ?
Non. Si vous vous tenez convenablement, non.
D'accord. On fait quoi maintenant ?
Je ne sais pas.
Vous pourriez tout arranger.
Arranger quoi ?
Cette erreur de clé.
C'est vous qui prétendez qu'il s'agit d'une erreur.
Mais qu'est-ce que je dois faire pour vous prouver que je suis une clé XY ? Vous voulez une preuve physique, tangible ? Je vous montre mon appareil génital s'il faut.
S'il vous plaît, ne recommencez pas. Restez décente, calme et courtoise.
Courtois.
Pardon ?
Non, rien.
D'ailleurs, cela ne prouverait rien du tout.
Ah bon ?
Non. Certains chirurgiens font des merveilles, paraît-il. L'illusion peut être parfaite, et je ne suis pas suffisamment qualifiée pour pouvoir juger de ce type de preuve.
Mince.
Bah oui.
En même temps, je préfère.
Vous préférez ?
Ne pas me dénuder devant vous, j'aurais trouvé ça gênant.
Oui, plutôt.
J'aime pas me dénuder devant les gens, je sais pas. Par pudeur, bien sûr, mais pas seulement. Peut-être par peur de déranger.
C'est vrai que ce peut être dérangeant. De se retrouver face à quelqu'un de dénudé, je veux dire.
N'est-ce pas ?
Oui, j'imagine.
À moins que vous ne soyez médecin, bien sûr.
Oui, mais je ne le suis pas.
Non, de toute évidence, vous ne l'êtes pas.
Bien. Vous n'avez aucune famille.
Comment le savez-vous ?
C'est indiqué dans les informations numériques de votre puce. Un flirt, une relation ?
Oui, Cynthia. Elle est étudiante en art. Nous nous sommes rencontrés peu de temps avant mon départ pour l'Amérique du Sud.
Vous l'avez revue depuis votre retour ?
Oui.
Et ?
Tout allait pour le mieux, jusqu'à hier.
Que s'est-il passé ?
J'ai voulu me rendre chez elle, mais ma puce m'a interdit l'accès à son appartement.
Il fallait s'y attendre, non ?
Ah bon ?
Réfléchissez un peu.
À quoi ?
Vous voulez que je vous rappelle la loi ?
Attendez.
Quoi ?
Si nous nous sommes connus avant mon départ pour l'Amérique du Sud, si nous avons eu une relation, c'est que ma clé me l'autorisait ? Si j'avais pas été une clé XY, cela aurait été impossible. Nous aurions été bloqués ou arrêtés.
À moins que vous n'ayez tout inventé.
Tout inventé ?
Votre cerveau peut vous jouer des tours sans que vous en soyez consciente.
J'ai pas inventé Cynthia ! Cynthia Powell avec deux L, 251 Main Love Avenue, vous pouvez vérifier.
Ah mais, je ne dis pas qu'elle n'existe pas. Elle existe très probablement, d'ailleurs. Mais je n'exclus pas que votre inconscient ait pu forger une relation fantasmagorique à laquelle vous avez fini par croire.
Alors demandez-lui si j'invente tout ça. Elle vous racontera comment nous nous sommes rencontrés, comment nous avons connecté, les promesses, les projets. Hein, à moins qu'elle aussi soit une affabulatrice, n'est-ce pas ?
Pour être honnête avec vous, je dois vous dire qu'il n'est pas exclu qu'elle soit votre complice.
Oh.
Qu'est-ce qui vous rebute dans le fait d'être une clé XX ?
Mais je suis pas une femme !
Admettons. Mais qu'est-ce qui vous dérangerait si vous l'étiez ?
Je sais pas. Tout ?
Tout ?
Non, enfin, je sais pas. C'est vertigineux ce que vous me demandez.
La perte de vos attributs masculins ?
Oui, oui, peut-être. Certainement.
Les menstruations ?
Je suppose.
La maternité ?
Mais comment voulez-vous que je réponde à ce genre de questions et pourquoi me demandez-vous cela ?
Pour essayer de mieux comprendre votre problème. Visiblement, vous faites un rejet psychologique de votre
vie. Je ne fais aucun rejet psychologique. Je sais que je suis une clé XY, j'en ai les attributs. J'ai toujours vécu comme ça. Je comprends pas comment votre système a pu bugger à ce point. C'est dingue quand même.
Jusqu'à présent, rien ne prouve que le système est bugué.
Alors quand allez-vous vous en rendre compte ?
Lorsque nous aurons éliminé tous les paramètres de fraude.
Oh.
Bien. Le décompte de ce traitement est écoulé. Je vous ai même gardé un peu plus longtemps que ce qui m'est autorisé par l'algorithme.
Merci.
Rentrez chez vous. Prenez une douche. Détendez-vous et attendez que le système vous contacte. Ah, et n'oubliez pas votre sachet stérile.
Merci.
Il vient de partir. Peu concluant. Oui. Oui, nous nous heurtons toujours à ce maudit complexe de réalité. C'est cela. Il refuse de se soumettre au programme sans réfléchir. Non, non, cela ne fonctionnera malheureusement pas pour lui. Trop de résistance, d'attache au concret. Mais bien, comme pour les précédents, je préconise un effacement. Oui, oui. Ah oui, j'oubliais. Un contact que nous n'avions pas enregistré. Une relation qui nous avait échappé. Cynthia Powell, avec deux L. 251 Main Love Avenue. Oui, un effacement aussi. Je comprends. Effacer une clé XX va à l'encontre des objectifs du programme, mais nous ne pouvons faire autrement. Oui. Oui, je suis prêt pour le suivant. Pardon ? Non, j'ai dit prête, pas prêt. Vous êtes certaine ? Excusez-moi, ça m'a échappé. Cela ne se reproduira plus. Oui, oui, je sais. Pas plus de 15 minutes. Oui, j'ai confiance. Merci.
I Can Hardly Express, une fiction écrite par Olivier Piechazik, réalisée par Sophie Haute-Picon. Générique à retrouver sur franceculture.fr.
Et vous retrouverez un prochain épisode de La Fiction Imagine demain. C'est l'heure de la chronique de François Sureau, La Seine et nos amours. Aujourd'hui, l'itinéraire du créateur du célèbre éléphant Babar.
Nous sommes ici au kilomètre 260 depuis les sources de la Seine et nous sommes place d'Enfer Rochereau, à deux pas du cloître de Port-Royal, le visage tourné vers la croupe du magnifique Lion, spectacle qu'a vu dans sa jeunesse Jean de Brunhoff, le créateur de Babar, dont nous allons parler maintenant et qui habitait ici. J'aime énormément Babar, l'insipide de l'histoire de Babar, publié en 1937, est certainement l'un des plus beaux de l'histoire de la littérature avec le célèbre « Je suis né à York » de Defoe. Dans la grande forêt, un petit éléphant est né, il s'appelle Babar, sa maman l'aime beaucoup. Je vous disais donc que le créateur de Babar, Jean de Brunhoff, était né ici d'une famille suédoise, balte et autrichienne, et on lui a souvent attribué un sang royal, on l'a fait le fils naturel de je ne sais qui, et c'est vrai que les dessins qui représentent d'énormes pachydermes s'asseyant dans des meubles directoires extrêmement fins évoquent les cours d'Europe. Son père, Maurice de Brunhoff, était un éditeur. Il avait publié une Bible magnifique, illustrée par James de Tissot, qui a été, vous en souvenez, le peintre du cercle de la place de la Concorde, peinture sur laquelle on voit Charles Haas, qui a été l'un des modèles de Swann. Et donc, Jean de Brunhoff a passé son enfance ici, regardant ce lion que nous voyons à présent et qui commémore la défense héroïque du colonel d'Enfer Rochereau et de la place de Belfort face aux Prussiens en 1870. Et on peut penser que ce grand animal, immobile et fier que nous voyons devant nous, a frappé également l'imagination de l'enfant. C'est en 1931 qu'il publie le livre de Babar, qui est une nouveauté dans le dessin et dans la littérature pour enfants. C'est un format énorme, avec une masse veloutée de l'éléphant, avec des blancs, pour ne pas épuiser le regard de l'enfant quand il feuillette les pages du livre, et une palette très simple avec des tons rouges, verts et jaunes. C'est un véritable chef-d'œuvre et c'est ce qui expliquera que un très grand nombre de musiciens en particulier ont voulu illustrer musicalement l'histoire de Babar, notamment Poulenc, qui a trompé l'angoisse que lui causait la défaite en juin 1940 en composant des pièces pour piano sur l'histoire de Babar qui ne seront jouées qu'à la Libération. Je veux dire quelques mots sur la vie de Jean de Brunhoff, qui a été une vie météoritique, une vie trop brève. Il est élève à l'Académie de la Grande Chaumière avec Othon Fries, qui décorera avec du fil le palais de Chaillot. Il se lie là avec un autre peintre, un peintre un peu orientaliste, s'appelle Émile Saboureau, et dont il épousera la sœur, qui s'appelle Cécile. Et on dit souvent que c'est Cécile, en fait, qui a inventé le personnage de Babar, qu'ensuite Jean de Brunhoff aurait peint, aurait mis en scène, et qu'elle aurait inventé pour un soir où elle racontait des histoires à ses enfants malades. Il fait de belles natures mortes. En 1932, une nature morte avec pipe et livre, qui est presque surréaliste. On voit une pipe à la Rimbaud, un pot sur lequel il y a marqué « Charpie fine », qui est un peu inquiétant, et puis un palmier pour le voyage. Et la maison des Saboureaux à Chessy, qu'il a peinte également avant la guerre, ressemble un peu aux aquarelles de Peter Volkonski, un paysage mobile et une maison immobile au milieu de ce paysage mobile et qui, par là, est rassurante. Il y a un petit livre qui est une interprétation de l'histoire de Babar, un petit livre magnifique, très difficilement trouvable aujourd'hui, qui s'appelle « Inconnu dans son royaume », et qui fait de Babar véritablement la figure secrète de la vie politique française, sa référence cachée, et qui va jusqu'à dire que lorsqu'ils élisent un président de la République, les Français cherchent le roi Babar, l'incarnation d'un rêve qu'il soit à la fois monarchique et socialiste, laïque et moral. Et c'est très intéressant, la pensée politique de Babar, la pensée politique des livres de Jean de Brunhoff, la pensée politique qu'on voit à l'intérieur des livres de Babar. C'est un univers immobile. L'anticipation a disparu. Avec elle, l'anticipation a disparu également la monnaie, le taux d'intérêt. Il n'y a le troc, et simplement le troc. Il n'y a plus de fonctionnaires, à l'exception des deux seuls fonctionnaires utiles que sont le militaire pour vous défendre et le balayeur pour ramasser les ordures. Il y a une parade des éléphants à Célesteville, et cette parade n'est totalitaire qu'en apparence, puisque, au fond, cette parade manifeste une solidarité absolue entre les éléphants qui ne doit plus rien à l'État. C'est le programme de Sartre qui est réalisé par Babar, une société sans commerce et sans industrie qui ne fait pas sa propre propagande. C'est aussi le programme d'Engels dans l'anti-During, c'est-à-dire le dépérissement absolu de l'État. Et c'est aussi un programme antiraciste. Il faut se souvenir que ces livres magnifiques ont été faits entre 31 et 40. Les autres espèces vivent librement dans un univers pacifié, qui est certes gouverné par les éléphants, mais qui est accueillant aux autres espèces comme si le territoire leur appartenait également à elles. On ne demande pas d'intégration à personne. On ne demande pas au crocodile de devenir un éléphant. C'est le monde de l'antiracisme intégral dans le monde de l'avant-guerre. La figure de Babar nous touche aussi, je dois dire, par son inquiétude. C'est un univers fixe, c'est un univers immobile, mais le souverain s'en absente. Le souverain est comme hanté par l'inquiétude de bien faire. Il y a de l'Ulysse dans Babar. Babar fuit, Babar explore. Et dans l'un des derniers livres publiés par Jean de Brunhoff, qui est « Babar et le Père Noël », Babar en vient à remplacer le Père Noël dépressif et par distribuer des cadeaux à sa place. Au fond, Babar est dans cet univers et dans cette galaxie le seul à n'avoir pas choisi. Tous les autres éléphants ont choisi un métier qui leur plaît. Babar a simplement été élu et on peut penser que s'il cessait d'être roi, il reviendrait à la condition normale, si je puis dire, d'éléphant de base. Mais tous les autres éléphants ont choisi un métier qui leur convient sans que la société y fasse obstacle. Et ce qui est amusant, c'est que ces métiers sont sans aucun rapport avec l'éducation. L'école est là pour apprendre et presque pour apprendre à apprendre, pour développer la curiosité. Elle n'est absolument pas là pour préparer à un métier. Elle n'a aucun rapport avec le choix d'un métier. C'est une société sans classe et c'est une société d'ordre où chacun a choisi l'ordre qui lui convient. Le monde de Babar est, avec l'œuvre de Thomas More, une des grandes utopies de la modernité, et c'est d'ailleurs le thème de ce livre magistral qui s'appelle « Inconnu dans son royaume ». Jean de Brunhoff est mort très jeune. Il est mort avant 40 ans, juste avant la guerre. Et sa dernière gouache s'appelle, de manière presque prémonitoire, quand on sait ce qui allait emporter et dévaster l'Europe, « Babar se creuse un abri dans la tempête ». C'est une gouache absolument magnifique qui montre une crainte, mais aussi un amour de l'ordre juste. Et au fond, cet amour de l'ordre que manifestent ces albums, on présente souvent l'ordre aux enfants en imaginant que les enfants ont besoin d'être rassurés, je ne sais pas si c'est vrai, mais cet amour de l'ordre qui est manifesté dans ces albums comporte un élément de pédagogie politique. Cet amour de l'ordre correspond à une volonté du bien, à une véritable tension vers la justice. Et c'est ce qui fait des aventures de Babar bien plus que aucun autre livre. Un livre particulièrement nécessaire à notre temps.
La nuit est venue. Les étoiles se sont levées. Le roi Babar et la reine céleste, heureux, rêvent à leur bonheur. Fin.
Et on se retrouve demain pour une nouvelle grande table d'été hommage à Olivia de Havilland. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Chouchane Gergaillan, Lou Quevauvilliers, Jeanne Copé, Judith Kravitch et Mathieu Bellini, à la réalisation Lise Combe, à la technique Jordan Fuentès et Ludovic Auger. Je vous rappelle que cette émission est disponible en réécoute et en podcast sur le site franceculture.fr et sur l'application Radio France.